Pendant quelques semaines, nous allons nous pencher sur quelques-uns des psaumes en demandant au Seigneur de nous révéler sa face. Je crois que c'est Calvin qui a dit que le livre des psaumes est une anatomie de l'âme de l'homme. C'est-à-dire que dans les psaumes, nous trouvons toutes les expériences que l'humain peut avoir. La joie et la tristesse, la colère, la frustration, le soupir, l'amour, l'affection, le combat. Nous trouvons toutes les expériences que nous pouvons avoir ici dans un livre. Un livre qui parle de Dieu et de nous. Eh bien, nous allons maintenant nous penser sur le psaume 84 pendant deux ou peut-être trois dimanches. On va juste couvrir les cinq premiers versets aujourd'hui. Nous aurons quatre points après une petite introduction. Alors, parlons de ce psaume. Qui l'a écrit? Vous avez remarqué lorsque nous l'avons lu, probablement les fils de Corée, c'est soit par eux ou pour eux, mais qui sont ces fils de Corée? Alors les fils de Corée sont les membres de la tribu de Lévi, donc ça c'est la tribu des sacrificateurs et de ceux qui devaient prendre soin de tout ce qui concernait le temple. Alors les fils de Corée n'étaient pas sacrificateurs, mais ils étaient chantres et ils étaient gardiens ou concierges du temple. Et donc il y a plusieurs des psaumes qui sont écrits par les fils de Corée. Probablement ces fils de Corée ont été empêchés d'aller au temple au moment de composer ce chant. Parce que vous voyez au début combien ces demeures sont chéries, éternelles les armées, mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Ce ne serait pas la première fois. Nous savons que, par exemple, quand Absalom a fait sa révolte contre son papa, que les sacrificateurs sont partis avec David. Et c'est à ce moment que le psaume 42 aurait été écrit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu, c'est-à-dire au temple? Donc voilà des croyants qui aiment le Seigneur, mais qui ne peuvent pas aller l'adorer au temple. Et il faut savoir que la place du temple en Israël était très, très, très importante. Il y avait une adoration centralisée. C'est là le seul endroit pour le peuple de Dieu où Dieu se révélait et communiait avec son peuple de manière plénière. On ne pouvait pas trouver ailleurs qu'au temple ce qu'on pouvait trouver au temple. Dieu se manifestait là d'une manière spéciale. Donc si on ne pouvait pas aller au temple, on ne pouvait pas avoir le même contact avec Dieu. Et voilà le problème de ces fils de Corée quand ils écrivent un chant. Donc on va chanter là-dessus. On est loin de Dieu, chantant une chanson au sujet de la distance qu'on a avec Dieu et ce qu'on va faire avec ça. Donc voilà, pour la plupart de l'introduction, j'ai encore deux choses à vous dire. D'abord, comment est-ce que nous pouvons transposer ça dans notre expérience? Comment est-ce que ça vous concerne, vous? Parce que vous n'êtes pas juif, vous n'allez pas au temple, les choses ont changé. Eh bien, ce psaume est écrit pour nous. La Bible dit dans le Nouveau Testament que tout l'Ancien Testament a été écrit pour nous qui vivons dans ces derniers jours. Mais la manière de transposer cela, c'est de nous rappeler que l'Ancien Testament est plein de panneaux. Quand vous lisez l'Ancien Testament, dites-vous qu'il y a toujours un panneau qui signe, qui pointe vers une réalité qui n'est pas au moment de l'Ancien Testament, mais qui est au moment du Nouveau Testament, en Jésus-Christ. Et presque toujours, ce panneau va nous diriger vers deux endroits. Parce que pour chaque chose préfigurée dans l'Ancien Testament, il y a un accomplissement ultime un jour, ce jour n'est pas encore venu, et un accomplissement partiel maintenant que Jésus est déjà venu sur terre. On appelle ça le « déjà » et « pas encore ». Le royaume de Dieu est venu déjà, parce que Christ est venu, mais le royaume n'est pas encore venu complètement. Donc nous, les chrétiens, on est un peu dans une situation d'accomplissement partiel, mais pas complète. Et pour ce psaume, l'accomplissement ultime d'aller se présenter devant la présence même de Dieu, c'est quoi? Quel est l'accomplissement complet de cela? C'est bien, c'est le paradis, n'est-ce pas? Ce que les fils de Corée voulaient vis-à-vis du temple, vous devez vouloir vis-à-vis de la présence manifeste de Dieu dans la gloire. C'est ça. C'est comme ça que ça vous concerne. Vous aurez les mêmes expériences que les fils de Corée, mais non pas par rapport au temple. Par rapport à la présence glorieuse de Dieu un jour. Mais il y a aussi un accomplissement partiel. Ça vous concerne par rapport au culte de dimanche. Parce que dans le culte de dimanche, nous avons l'accomplissement partiel du paradis. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu, l'Église, dans son ensemble. Et surtout quand nous sommes devant la face de Dieu, dans le culte et dans l'adoration, nous avons une sorte d'avant-goût de la présence glorieuse de Dieu à venir. Le saviez-vous? Donc, nous allons voir que ce que les fils de Corée ont vécu par rapport au temple, nous vivons par rapport au culte chrétien, dans un sens. Donc, on va essayer de comprendre ces deux choses. Comment est-ce que tu pratiques le culte? Comment est-ce que tu désires le culte? Comment est-ce que tu regardes vers la fin des temps quand nous serons dans la présence du Seigneur, si nous sommes croyants? Les fils de Corée vont nous aider beaucoup avec ces choses. Maintenant, la dernière chose que nous devons faire, c'est de comprendre la structure du psaume. Parce que parfois, si on ne comprend pas la structure, on ne sait pas où on va. Et la structure est assez facile. Il y a trois parties dans ce chant. Et nous le savons parce que les fils de Corée nous ont donné un indice. Ils ont répété trois fois une même idée. Heureux celui ou ceux qui font telle chose. Regardez avec moi. D'abord, dans le verset 5, nous avons « Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils te loueront encore. » Alors, toute la première partie qui finit avec cette phrase parle de notre destination ou de la destination des fils de Corée. « Oh, je veux être là dans la destination du temple. Je veux y arriver là, au temple où Dieu se réside. » Et à la fin de tout ça, « Heureux ceux qui, justement, habitent ta maison, qui sont arrivés à la destination. » Donc, la première partie du psaume, c'est « La joie de notre destination. » La joie de notre destination. Et pour nous, c'est finalement le paradis, la gloire de Dieu. Deuxièmement, et cette fois, il ne va pas mettre la phrase « heureux ceux qui », il ne va pas le mettre à la fin de sa section, il va le mettre au début. Regardez donc le verset 6. Il dit « Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. » Et maintenant tout le langage parle non pas d'une destination mais d'un voyage. Regardez, des chemins tout tracés, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils en font une oasis. La pluie les couvre de bénédictions, leur vigueur ne cesse de croître, ils se présenteront devant Dieu à Sion. Donc nous avons là le portrait des hommes qui font le pèlerinage pour arriver au temple. Ok? Et donc cette deuxième partie, c'est la joie du voyage. La joie du voyage chrétien. Et on va parler de ça la semaine prochaine. Il y a des joies pour nous qui attendent lorsque nous arrivons dans la destination du ciel. Et il y a des joies qui nous accompagnent lorsque nous faisons route vers le paradis. Ok? Le troisième partie, nous voyons la phrase heureux à la fin. Regardez le verset 13. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Ok? Donc, on les répète les trois. Heureux ceux qui habitent sa maison. Heureux ceux qui ont leur force en toi au cours du chemin. Et heureux ceux qui se confient en toi. Donc, la dernière partie, c'est les joies de la vie de foi. Et je vais expliquer la prochaine fois comment ces trois parties se joignent. Ok? Donc, pour le moment, aujourd'hui, nous allons tout simplement le limiter à ce premier point, les joies de la destination du chrétien. Les joies de notre destination. Et je dois vous dire une chose avant d'aborder mon premier point. Je vous assure que je termine l'introduction comme ça. Ce qui nous étonne, c'est que c'est un psaume au sujet de la joie. Heureux, heureux, heureux. C'est rempli de bonheur, ce chant. On chante au sujet de ce qui nous rend heureux. Or, c'est un chant qui est écrit à partir d'un problème. On n'est pas au temple. On a le droit d'être frustré. On soupire après quelque chose qu'on n'a pas, et pourtant, on chante un chant au sujet heureux, heureux, heureux. Maintenant, vous pouvez voir que ce chant a peut-être quelque chose à vous dire. Parce que nous avons le même problème, n'est-ce pas, dans notre vie chrétienne. On n'y est pas encore. Et le chant va nous aider à comprendre le bonheur du chrétien qui n'est pas arrivé à la destination. Ok, nous commençons avec un premier petit point. Nous avons trois points. Le troisième est la plupart du contenu. Et il a deux sous-points. Mais le premier point est tellement rapide, vous allez vous encourager. Tout croyant a une aspiration. Tout croyant a une aspiration. Le verset 2 et le verset 3. Combien tes demeures sont chéries, éternel des armées, dit le croyant. Mon âme soupire, elle défaille. Ça, c'est quelqu'un qui vivait ça. Il parle de ce qu'il vivait. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Nous voyons que ce croyant, qui doit être comme nous, il est tout pris dans un désir, dans une envie. Il dit mon cœur, ma chair, et l'intensité, c'est que jusqu'à défailler, je soupire, j'ai envie de ta présence. Cela est important pour nous parce qu'il faut comprendre, chers jeunes ou chers adultes, que la vie chrétienne est faite en grande partie de désir. De désir. Si tu n'as pas de soupir en toi, tu n'es pas chrétien. Parce que ça définit le croyant. Le croyant ne dit pas « Je devrais aller dans la présence de Dieu, j'ai le devoir de le faire, j'accepte que oui, oui, c'est ce qu'il faut. » On ne peut pas imaginer cela. Le croyant dit « Mon cœur soupire. » Et ça montre à quel point un miracle de changement a eu lieu dans sa personne. Ce qu'il ne désirait pas avant, on lui parlait toujours de ça, il faut désirer Dieu, il faut désirer la gloire éternelle. Mais maintenant, il sait pourquoi c'est désirable. Et il le désire. Deuxième point. Notre aspiration, c'est pour quelque chose ou quelque part. Quelque part où nous ne sommes pas arrivés. Et quelque chose que nous n'avons pas encore. Imaginez, tu vis et ce que tu veux vraiment, ce qui te fait vraiment envie, c'est une chose que tu n'as pas et tu ne peux pas l'avoir pour le moment. Les fils de Corée sont loin du temple. Le croyant est loin de la gloire éternelle. Mais c'est ce qu'il veut le plus. Et cela nous montre, et c'est pourquoi j'ai demandé à Flavien de lire Romains 8, que le chrétien, comprenant bien la vie chrétienne de cette manière, La vie chrétienne se vit dans l'espérance. Et vous avez bien entendu la lecture de Flavien? On espère ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas espérer quelque chose si on l'a déjà. Et le chrétien vit dans l'espérance de quelque chose qu'il n'a pas. Cela est extrêmement important pour votre équilibre spirituel et mental, pour cette raison. Imaginons que vous pensiez que le salut en Christ, c'est ce que vous avez déjà. C'est tout. Vous avez déjà tout. Le salut, ce que c'est qu'être chrétien, d'être réconcilié avec Dieu, c'est la vie chrétienne telle que vous la connaissez maintenant. Ouh là là! Imaginez, voilà cet enfant, il a 5 ans. Il n'est jamais sorti de Paris. Et il ne connaît pas les plages. Donc, il a eu une invitation d'un copain d'aller à la plage, pas loin de Marseille. Et sa maman dit, ok, tu peux aller avec la famille de ton copain. Et donc, il est vraiment ignorant de tout cela. Il ne sait même pas ce que c'est qu'un plage, ce petit enfant. Il arrive chez son copain, on charge la voiture, et il entend, ah oui, la plage, la plage! Donc, il pense que, c'est la voiture qui doit être la plage. Ah, je pensais que c'était autre chose. Ok, bon, on verra. On m'a dit nager, tout ça, je ne sais pas comment on va nager là-dedans, mais... Ok, donc il pense qu'il est déjà là dans la plage, et pendant quelques heures, ça roule. Et vous savez comment c'est quand on doit aller en vacances. Ça roule, et ça n'en finit pas, il y a des bouchons, et parfois le voyage est difficile. Et sa maman appelle sur le portable, « Comment vas-tu, mon petit ?»« Oui, tu sais, la plage n'est pas tellement bon que ça. Moi, je veux rentrer. » Je sais pas pourquoi ils ont tellement loué cette plage, mais ça me plaît pas complètement. Mais ils confondent le voyage avec la destination. Le voyage n'est pas la plage. Le voyage, c'est seulement la route pour y arriver. Et le chrétien doit comprendre que ce que Dieu a réservé, ce qu'il a voulu pour nous, ce n'est pas une vie, enfin, finalement, qui est parsemée de défaites, de frustrations, de manquements, parfois, comme la vie chrétienne l'est, de luttes, de combats. Non, la destination est tout autre. Votre connaissance de Dieu en ce moment est peut-être parfois frustrant pour vous, parce que vous connaissez le Seigneur. Vous avez eu des aperçus de sa grâce et de sa gloire, mais vous avez l'impression parfois, n'est-ce pas, je ne le connais qu'à peine, je le connais guère. Et ça, c'est difficile à vivre, n'est-ce pas? Nous voyons des expressions dans la Bible qui dépassent tellement notre expérience du Seigneur qu'on a du mal à prendre ça et dire que ça peut être vrai. Mais tout cela vient du fait que nous ne sommes pas encore à la destination. Nous vivons par la foi dans ce que nous n'avons pas vu encore. Attendez seulement. La plage arrive. Restez dans la voiture. C'est incroyable. Ça nous aide, n'est-ce pas, à savoir que nous ne sommes pas à la destination. Qu'elle est beaucoup plus merveilleuse que le voyage. Et ça nous aide à rester en place pendant ce trajet difficile. Je ne sais pas ce que vous faites avec vos difficultés spirituelles. Je sais que vous en avez. Mais les fils de Corée font une chose spécifique avec leur manquement et leur insatisfaction spirituelle. Et ça, on le trouve dans le verset 3. Ils en parlent à Dieu. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Et si je peux ajouter une phrase du psaume 63. Donc, quand viendrai-je devant l'Éternel et quand est-ce que je paraîtrai devant sa face? Il est très important pour vous et moi, dans notre vie avec le Seigneur, d'exprimer ce décalage entre ce que je vis de mon salut et ce que je veux vivre de mon salut. Oh Dieu, est-ce que tu le dis? Oh Dieu, mon cœur soupire. Oh, je gémis, comme Paul dit aux Romains. Je gémis dans ce temps présent. Oh Seigneur, le décalage entre ce que tu m'as promis et la partie que j'ai reçue jusqu'ici. Oh vite, Seigneur, fais venir le sang de la glorification. Donc c'est très important pour nous de gérer donc ce décalage comme les fils de Corée, d'en parler, d'en chanter et de penser à la destination et de nous rappeler, on n'est pas encore là, attendez seulement, patientez. Ça nous aide beaucoup. Et maintenant, on aborde le dernier point et on veut juste comprendre quel est le contenu vraiment de cette aspiration des fils de Corée et de nous aussi. Nous soupirons pour quoi? Après quoi? Qu'est-ce que nous envions? Et nous allons nous pencher un peu plus sur ces versets 2 à 5. Il y a deux choses que les fils de Corée veulent, c'est de venir dans la présence immédiate de Dieu pour voir Dieu et sa gloire et pour être accueilli par Dieu dans sa maison. Donc nous allons voir le premier point, de voir Dieu dans sa gloire. Qu'on vient et demeure son chéri éternel des armées, mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'éternel, mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Au début de verset 3, on pourrait penser que ces sacrificateurs, ou ces lévites, pardon, aiment beaucoup le bâtiment. Parce qu'ils disent, mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel, après le temple. Mais quand nous lisons la deuxième partie, nous découvrons qu'ils veulent le temple à cause de la personne, ils veulent l'endroit à cause de la personne. Parce que nous lisons, mon corps et ma chair acclament le Dieu vivant. C'est parce que le Dieu vivant est là et se manifeste au temple que le temple et ses parvis sont chéris pour nous. Et ça nous amène à nous rappeler que notre plus grand appel en tant que chrétien et notre plus grand privilège, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître le Dieu vivant. Vous vous rappelez que le prophète Jérémie a dit que le sage ne se vend pas de sa sagesse et que le riche ne se vend pas de sa richesse, mais que celui qui veut se vanter se vante qu'il me connaît, le Dieu vivant, qui fait justice et qui fait miséricorde. Nous voyons dans les versets 11 et 12 du psaume que les fils de Corée disent, mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs, n'importe où ailleurs. Prenez l'endroit et l'expérience humaine et terrestre la plus fabuleuse que personne n'ait jamais eue. Et les fils de Corée, par l'inspiration de l'Esprit, disent qu'un jour dans la présence du Dieu vivant vaut mille, et c'est juste une expression, mille millions de jours dans n'importe quel autre endroit ou extérieur. Qu'est-ce que ça doit être d'être devant le Dieu vivant et de voir sa gloire, de connaître? Et quand je dis voir, excusez-moi, je ne veux pas vous donner l'impression que c'est simplement quelque chose de visible, la présence de Dieu. Mais je parle de la connaissance. Par exemple, voilà cette fiancée qui séparait de son fiancé, ils se sont pas tellement bien connus avant qu'il soit obligé d'aller pour son service militaire et la guerre a éclaté, il a dû aller sur le champ de bataille. Ils sont pas l'un avec l'autre, mais ils vivent quand même leur relation d'amour par appel téléphonique parfois, par courrier. Cette femme éprouve, expérimente et vit l'amour de son mari et le connaît un peu plus au fil des mois. Il se manifeste, il se révèle, il parle à elle, mais vraiment, c'est limité. C'est limité ce que je peux te montrer de mon amour si je suis à quelques milliers de kilomètres de toi. et je dois user des moyens très indirects. Mais à un moment donné, on lui donne un congé, et donc elle peut le voir pendant un mois. Et pendant ce mois, c'est autre chose. C'est autre chose. Elle arrive à non seulement le voir visiblement, mais à connaître, à expérimenter, à vivre toute sa grâce, sa tendresse, son amour pour elle d'une manière complètement différente. Complètement différente. Et c'est de ça que les fils de Corée sont en train de dire que vous êtes aimés par le Seigneur, il vous aime à travers les moyens de grâce, vous expérimentez son amour par sa parole, par les encouragements du corps de Christ, etc. Mais être dans la présence immédiate de Dieu un jour, vous ne pouvez pas imaginer combien ça va être glorieux pour vous. Combien. Rappelez-vous que l'apôtre Paul a été amené dans la présence de Dieu. Il ne sait pas si c'était dans le corps ou en dehors du corps. Mais il dit, j'ai vu des choses et j'ai expérimenté des choses qu'on ne peut pas exprimer et qu'on ne doit pas exprimer sur la terre. En parole humaine. Qu'est-ce qu'il a dû vivre? Il y a un océan d'infini, de grandeur dans l'amour et la grâce, et la fidélité, et la puissance, et la sagesse, et la tendresse, et la compassion du Seigneur pour vous. Et nous n'avons même pas commencé à concevoir la millionième partie. Donc, connaître Dieu, c'est le but suprême. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Nous nous rappelons que Moïse, son visage a brillé, n'est-ce pas? Mais quand est-ce que son visage a brillé? Quand il a été dans la présence de Dieu. L'effet était tellement grand que lui-même était transformé. Tellement transformé que les gens avaient peur de le regarder. Est-ce que le fait d'être simplement dans la présence de Dieu est tellement bouleversant que ça transforme un homme et rend-le complètement différent? Oui. Jean dit dans son épître que nous ne savons pas ce que nous serons un jour, mais nous savons que nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Quand nous le verrons tel qu'il est, cette vue de Christ nous bouleversera, nous changera, nous transformera et nous serons comme lui. Simplement par l'effet de le connaître immédiatement. Qui est ce Dieu? Comment est-ce que ça doit affecter si telle est notre destination? Telle est notre aspiration, cette connaissance de Dieu dans sa présence immédiate. Comment est-ce que ça doit affecter notre manière de faire le culte? C'est un avant-goût. Je vous pose la question. Pourquoi venez-vous au culte? Quelle est votre aspiration en venant? Est-ce que vous avez des soupirs en venant au culte? Est-ce que vous avez des attentes que Dieu a promis de se révéler à vous dans l'assemblée, d'une manière particulière? Est-ce que le culte est pour vous juste un moment où, pour vous remonter? Beaucoup d'évangéliques font ça. Le culte, c'est un moment où on chante beaucoup pour se remonter. Ou bien, est-ce que le culte est pour vous un moment où, de spectacle? Encore pire. Mais nous voyons que si notre destination et c'est le but suprême, le bien suprême que vous pouvez avoir, c'est de connaître Dieu dans tout son amour et sa grâce, eh bien le culte doit être pour vous un avant-goût. On vient pour se présenter devant la face de Dieu et demander qu'il nous visite. Et j'espère dans cette implantation de l'Église que nous aurons un peuple qui prie dans les jours avant chaque culte de sabbat et qui disent avec un cœur soupirant, ô Seigneur, visite-nous. ce dimanche. Visite-nous. Ce que nous voulons, c'est ta présence, comme les fils de Corée. Maintenant, ça c'est la première partie de notre destination, notre aspiration, c'est de venir dans la présence de Dieu pour le connaître tel qu'il est. Mais c'est pas tout. On veut venir dans la présence de Dieu, soit dans le culte partiellement, ou soit au paradis pleinement, pour connaître Dieu tel qu'il est, mais aussi pour une autre raison, qui est dans ce psaume. Et c'est pour être accueilli par Dieu, pour que sa maison devienne notre maison. C'est-à-dire que nous retrouvions dans sa présence notre chez-moi. Je m'explique. Le paradis final dans la présence de Dieu n'est pas, ne pensez pas comme ça, n'est pas comme un spectacle où on vient en tant que spectateur pour regarder quelqu'un de grand, qui fait quelque chose de formidable, mais on ne le connaît pas, on regarde, ah oui, ça c'est formidable, et on repart. La Bible dit que la présence glorieuse de Dieu est un chez-soi. Et c'est pour cela que nous devons parler des oiseaux. Lisez avec moi donc ce verset étonnant qui est le 4. Après avoir parlé de les parvis de l'Éternel, il dit « Le passereau même trouve un gîte dans le temple, dans la maison où Dieu réside. » Et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits, tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe là? Probablement, l'auteur de ce psaume avait remarqué que, en étant au temple parfois, que dans les corniches et dans les avant-trois du temple, il y avait des nids. Il y avait des oiseaux. Et la coutume était, dans les temples d'Antiquité, et ça se passait comme ça dans le vrai temple du vrai Dieu, qu'on ne chassait pas les oiseaux du temple. On les laissait. Et ce fils de Corée commence à réfléchir. Dieu veut bien qu'il y ait des petits oiseaux de rien du tout, insignifiants, mais il les accueille. Et la maison de Dieu, la maison sacrée, la maison où le Dieu vivant réside, devient la maison des hirondelles, où ils sont chez eux. Ils sont en sécurité. Ils ont un chez-soi. Ils peuvent se reposer. Ah, la présence de Dieu est ça aussi pour moi, pour toi? Exactement. Et si c'est pas ça, c'est rien. Vous savez que une des angoisses la plus grande de l'homme moderne, les sociologues disent, c'est qu'il ne trouve pas de chez lui. En anglais, on appelle ça « home ». C'est un mot, oui, chez soi, c'est un... Il n'a aucun endroit où il appartient, où il peut être accueilli tel qu'il est, aimé, protégé de manière à ce que ça c'est une finalité. Là je suis arrivé. Là j'ai trouvé mon chez-soi. Là je suis bien. J'ai plus besoin de partir. Mais c'est ça un peu l'image de ces oiseaux que Dieu accueille dans sa maison. Et par cela, le psalmiste veut nous montrer que la présence de Dieu est que nous aspirons, que nous n'avons pas encore vraiment. Et que vous êtes mal à l'aise quelque part dans ce monde, moi aussi, parce que on n'a pas été accueilli comme on va être accueilli un jour. Un jour Dieu va nous prendre dans ses bras, c'est ça sa présence, c'est une présence accueillante, embrassante, protégeante. Il va nous prendre et il va dire, maintenant tu es arrivé, tu restes avec. C'est vraiment étonnant de voir que ces créatures insignifiantes sont dans la maison du Dieu toute importance. Ces créatures petites dans la résidence du Dieu infiniment grand. Et un des problèmes de l'homme moderne, c'est justement qu'il a découvert que l'univers est immense. Et vous savez l'effet sur les non-croyants de cette découverte? Ils se sentent écrasés par l'immensité de l'univers. Oh, ça veut dire on n'est rien! Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La solution, c'est que le Dieu infini est par sa nature divine elle-même, le Dieu enveloppant, le Dieu qui te prendrait toi, vraiment toi, et qui fera de sa présence ton chez-toi. Il y a juste un détail, on va finir avec ça, qui est un peu inattendu. C'est le fait que dans ce verset 4, il dit que le pasteur même trouve un gîte et l'hirondelle a un nid où elle dépose ses petits, et puis il va identifier cet endroit. Et il dit pas tes parvis éternels ou ton temple éternel, il dit tes autels. Or nous savons que c'est pas vrai. Aucun oiseau n'a jamais fait un nid dans un des deux autels qui se trouvent dans le temple de Dieu. Le temple où on sacrifie les animaux, qui représente la croix de Christ, n'est-ce pas, sacrifié pour nous, ou bien l'autel, le deuxième autel dans le temple, l'autel d'encens, où un encens monte vers l'éternel continuellement, ce qui représente l'intercession de Christ au ciel pour nous. Non, aucun oiseau n'a jamais fait un lit là-dedans, parce qu'il y a du feu, parce qu'il y a constamment beaucoup d'activités, parce qu'on immole des animaux là-dessus, ou bien on apporte des choses dedans, c'est impossible. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Alors, il utilise une technique des Hébreux, qu'on appelle synecdoque, qui est une façon de parler, où on utilise une partie pour parler d'une chose plus grande. Et donc, quand il dit « les oiseaux font leur nid dans tes autels », il veut dire « dans ton temple ». Ok? On parle d'un plus grand en mentionnant juste une partie. Mais pourquoi est-ce qu'il choisit les autels pour parler du temple, des corniches, des avant-toits et tout le bâtiment? Réfléchissez. Pourquoi est-ce qu'on prendrait les autels pour parler du temple? Eh bien, parce que toute la relation de nous avec Dieu, des fils de Corée avec Dieu, au temple, se concentre dans ce qui se passe à l'autel, se focalise dans ce qui se passe à l'autel. C'est comme si les fils de Corée disaient, la raison même pour laquelle je peux être accueilli dans cette maison de la présence de Dieu glorieuse, c'est ce qui se passe à l'autel. C'est là le lieu d'accueil. C'est là la raison que la présence de Dieu est devenue pour moi un lieu de sécurité. Parce que c'est là que Christ a porté nos péchés. C'est là que Dieu a enlevé tout ce qui pouvait nous refouler de la présence de Dieu. Tout ce qui pouvait faire que Dieu dise, je veux être plutôt banni de moi. Dieu a réglé tout cela à l'autel. Là, se substitue et immolé. Et meurt à ma place, à cause de moi, un autre horrible mort, sacrifice. Et c'est Dieu qui a construit une maison où au centre, il y a cela. Parce qu'au centre de son plan, il y a cette grâce par laquelle il vous sauve, par Jésus-Christ. Nous pouvons penser au brigand sur la croix si nous voulons comprendre cet accueil du pécheur et la manière dont Dieu est vu ici comme le Dieu qui nous accueille dans sa présence. Le brigand exprime un peu la même chose. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Regardez le verset 4 de notre psaume. L'hirondelle a nid où elle dépose ses petits, ses autels éternels des armées, mon roi, ton royaume. Le grand roi accueille des petits oiseaux auprès des autels. Et le sauveur sur la croix accueille un brigand qui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, mon Dieu et mon roi. Et le Seigneur répond, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Cette présence accueillante avec moi, cette présence glorieuse, tu l'auras même aujourd'hui. Je suis un Dieu tellement accueillant, un sauveur tellement prêt à sauver, que oui, cher brigand, âme qui s'est révoltée toute ta vie, et que je détourne maintenant vers moi, je t'accueille comme l'hirondelle et comme le passereau, je t'accueille comme le pêcheur, moi qui suis sur l'autel, afin de le faire. Que Dieu soit loué pour cette destination vers laquelle il nous amène sa glorieuse présence, notre glorieuse chez nous, notre chez-soi. Et que nous puissions apprendre à soupirer après notre destination finale, chers amis. Ne pas penser seulement à la vie chrétienne sur terre. Ce n'est pas bien pour nous. Que nous puissions exprimer ces soupirs à Dieu dans la prière souvent, comme font les fils de Corée. Et que nous pouvons aussi transposer ça dans notre désir pour le culte et pour une vraie rencontre avec Dieu dans le culte de dimanche. Nous allons chanter ensemble. J'ai demandé à Nicky de jouer un chant. Il se trouve que ça va être un peu difficile. On va le changer. Et elle va tenter de jouer sans avoir répété, mais on va essayer le 261. Après cela, je vous invite à prier si vous le voulez. 261, j'ai soif de ta présence.
Présence divine, capte ma foi, ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure de moi. Mes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, mon faible et mon courage, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, sa présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance, et la vie à jamais. chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi.
Je vous invite à la prière. Je vous signale que la prière après le sermon est une prière qui tourne autour de la parole de Dieu. Vous savez que quand vous parlez à quelqu'un longuement, si vous êtes dans un endroit et quelqu'un vous parle d'un certain sujet, vous êtes plusieurs, vous écoutez, vous n'allez pas répondre en parlant d'autre chose, complètement autre chose. Il n'a rien à voir avec ceux qui viennent de te parler pendant une demi-heure. Donc je vous demande de ne pas aller tout de suite dans la prière générale, mais Dieu nous a parlé, et la première chose, c'est de lui faire, de répondre à ce qu'il dit. C'est un moment de réponse à la parole. Et vers la fin, une fois que certains ont prié, parce qu'ils ont quelque chose sur le cœur maintenant, j'espère, vis-à-vis de la parole de Dieu. Laissez-les. Et une fois qu'ils auraient épanché leur cœur, si vous avez une autre requête qui ne concerne pas ce que nous venons de méditer, vous pouvez librement dire cela. Mais laissez d'abord le temps pour que nous puissions faire affaire avec Dieu, pour ainsi dire, par rapport à ce qu'il nous dit. Prions Dieu.
Oui, Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons que, comme dit ta parole, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et que nous soupirons constamment après plus de présence de ta part dans nos vies, car nous avons constamment soif de toi et besoin de toi, et comme le dit David, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Seigneur, c'est notre plus cher désir et c'est notre état de manque, non pas d'une drogue, mais pendant que nous serons dans ce voyage dont parlait David, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à bien vivre cet état de manque de toi, parce que nous reconnaissons que si nous étions mis dans ta présence tout d'un coup constamment, nous ne pourrions peut-être pas le supporter. Et Seigneur, tu nous éduques, tu nous apprends, et nous sommes formés par toi pendant notre passage sur cette terre, préparés à entrer dans ta présence. Seigneur, fais que nous soyons préparés du mieux possible. Et ta parole que nous avons lue ce matin dit que notre force s'acquiert pendant avec la marche. Et Seigneur, aide-nous à apprendre à marcher. Mais nous reconnaissons que notre situation, quand même, même si nous t'appartenons, est toujours d'une certaine manière une situation d'exil, loin de ta face, et cela depuis la chute. Et ce que Kierkegaard exprimait en disant: j'ai le mal du pays, sans avoir de pays. Mais Seigneur, nous savons que nous avons une patrie, elle est auprès de toi, et nous pouvons maintenant revenir à toi par Jésus-Christ, qui a tout fait, et par qui le voile du temple a été déchiré, et qui maintenant nous permet de revenir à ta présence. Seigneur, forme-nous, éduque-nous, équipe-nous, instruis-nous pour pouvoir être capables de cheminer et de nous diriger constamment vers toi, plus près de toi. Et Seigneur, nous te demandons, pendant que cette étape de transition vers toi a lieu, de nous encourager par des signes ou par le fait que tu nous montres partiellement ta présence, Mais Seigneur, permets que nous ne soyons pas découragés parce que nous te sentons trop loin de nous ou que nous nous sentons trop indignes de toi, car notre indignité maintenant est gommée devant toi parce que c'est par la dignité de Christ que tu nous es rendu accessible et que nous pouvons revenir à toi. Aide-nous à avoir tout cela constamment à l'esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour que nous puissions retrouver ce foyer et être de nouveau chez nous dans notre véritable patrie. Amen.
Amen.
Merci Seigneur pour le merveilleux plan de ton salut. Et déjà on voit dans ce psaume, dans ce bâtiment, dans ton temple, l'image de tel et tout ce que ça signifiait de l'avenir où ton fils allait pendre sur une croix. Merci au Seigneur que nous n'avons pas simplement une liste de règles, une religion vide de sens, mais nous sommes dans une véritable relation, une relation payée par le sang de ton Fils. Et Seigneur, nous sommes heureux que quand nous sommes vraiment proches de toi. Ô Seigneur, aide-nous à soupirer après tes présences. Merci pour ce psaume ce matin. Aide-nous à le garder dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Notre Dieu, nous confessons les fois où nous n'avons pas eu un cœur qui soupire après toi, où nous avons émoussé ces désirs en laissant entrer les désirs pour les choses de ce monde, même les choses mauvaises. Nous savons que cela t'attriste. Et nous te remercions que tu es tellement constant et fidèle et persévérant dans ton amour pour nous qui ne change jamais. Merci de nous transformer de jour en jour et merci de ce que ton esprit nous rend semblable à ce psaume d'année en année où nous voulons de plus en plus voir ta face et où nous comprenons que tout ce que ce monde peut nous offrir n'est rien par rapport à toi. Garde-nous, Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à venir dans ton culte avec des cœurs pleins d'aspiration, pleins de désirs, pleins de prières pour ta présence. Donne-nous, Seigneur, des moments de rencontre avec toi dans ce lieu, dans tout lieu où nous nous rassemblerons en tant qu'assemblée. Aide-nous à nous humilier devant toi, à nous reconnaître pécheurs, à trouver la joie dans ton salut, ô Seigneur Jésus-Christ. Nous nous remettons à toi pour cette journée. Bénis-nous encore dans cette journée que tu as mise à part. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Bien, donc, peut-être nous pouvons juste... Oui, excuse-moi, Aniki. Après, elle va jouer. On aura un moment juste pour faire silence, mais... Donc après cela, nous pouvons nous voir juste un moment pour choisir une date pour la rencontre vis-à-vis des statues. Je ne sais pas si dans deux dimanches vous êtes là. Est-ce que vous êtes tous disponibles pour avoir une journée, manger après le culte ensemble et puis passer une heure et demie à discuter les documents de l'Église? Dans deux dimanches, est-ce que ça ira pour vous? Gilbert? Oui? Marie-Claude? Ça peut aller pour toi dans deux dimanches?
Le premier
dimanche de décembre. Ça vient? Ça ira? Oui? Ok. Ok, on va dire ça. Donc, on se prépare et lisez. Je vous donnerai les documents maintenant, lisez-les. Je vous apporterai la confession de foi dimanche prochain. Mais si vous voulez avoir un peu d'avance, vous pouvez le trouver sur Internet. Donc vous tapez Confession de foi baptiste 789 et vous le trouverez. Vous allez sur le site de l'Église réformée baptiste du Crécy-Vaudan, notre ancienne église à Grenoble, et vous trouverez un lien pour la confession de foi. D'accord? Ok.
Ah oui, elle n'en a
Au début du règlement intérieur, il y a un abrégé de confession de foi. Donc, même si la confession de foi va être la confession baptiste de 1789, on a mis un abrégé là pour que les gens qui ne veulent pas, qui s'intéressent à l'Église, qui visitent, qui ne veulent pas lire toute la confession, peut-être au début, ils peuvent voir ce que nous croyons sans avoir lu les 50 pages d'une grande confession de foi. Donc, il y a trois pages d'abrégé. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, référez-vous sur un point ou l'autre de cet abrégé, référez-vous à la vraie confession de foi. Parce que là, c'est quelque chose qu'on essaie de comprimer et parfois on a réussi assez bien, parfois pas. Donc voilà.
Alors dans quel temps?
Oui, tu vas,
je tourne.
Il est très bien ce piano, mais c'est une sacrée exposition à chaque fois.
Oui, oui, oui. Une famille qui a fait ça pendant, je ne sais pas, 2 ans.
D'accord, non.
Tout le dimanche, donc je sais que quand on a eu notre local définitif, ils étaient bien soulagés. Hein.
Oui. Ouais, ce sera le cas
oui.
Avec les gens de Dieu bientôt. Donc tu as rendez-vous avec Michel
Jean-Paul.
Et son agent immobilier.
Oui, oui, oui.
Pourra te donner des pistes.
Oui, 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 oui. Donc c'est très bien.
Oui, oui.
Hier après-midi, j'ai rencontré Luc Bourbaucher, cet architecte chrétien à Marseille. Les 3 responsables de l'église, lui et 2 autres,
oui.
Ils sont dans une église Action biblique à Marseille.
Oui.
C'est une église vraiment, vraiment fidèle, hein, qui tient ça.
Oui.
Ouais. Donc ils sont vraiment. Oui, ils sont très tristes de l'évolution des choses dans l'action biblique en général.
On part demain.
Bon,
ça y est, le séjour est terminé là.
On était contents de vous avoir avec nous.
Oui, de toute façon, je reviendrai. Je ne sais pas quand, mais je reviendrai. On est venu 3 fois cette année.
Oui.
On est venu pour la naissance. On est venu au mois d'août. Bon, mais c'était pour nous.
Oui.
Je suis venue quand même un dimanche. Et puis là, au mois de novembre, donc l'opération du petit.
Moi, je n'étais pas là, mais je ne sais pas si tu me rends là.
Oui.
Tiens, je sais pas si la parole.
Ça fait
je sais pas si la parole.
Je sais pas comment ça marche.
Je sais pas.
Ça, je ne sais pas si c'est...
Ah, j'ai oublié de l'arrêter. Ça, c'est embêtant.